Les podcasts du Collège de France, philosophie.
La dernière fois, je vous avais parlé assez longuement des critiques formulées à la fois par Leibniz et par Cudworth contre l'idée de la liberté d'indifférence, c'est-à-dire contre l'idée d'une volonté qui se déciderait, si on peut dire, de par sa propre volonté, c'est-à-dire qui voudrait simplement parce qu'elle veut vouloir. Parce qu'elle veut vouloir quelque chose, sans qu'il y ait à cela une raison particulière, c'est-à-dire qu'il se déciderait sans raison et sans cause. Alors, il y a un texte que je voulais vous citer, et j'ai oublié de le faire, en plus de ceux que j'ai déjà utilisés. C'est un texte qui est tiré d'un texte de Leibniz que j'ai déjà cité à différentes reprises, donc Von der Allmacht und Allwissenheit Gottes, donc de la toute-puissance et de l'omniscience de Dieu. Dans lequel Leibniz dit ceci, ils disent que la volonté libre, ce sont les défenseurs de la liberté d'indifférence, hein, ils disent que la volonté libre est une force d'un être intelligent qui est telle que sans une cause quelconque, il peut vouloir ceci ou cela. Donc oui, c'est réellement l'idée d'une volonté sans cause, une volonté qui agit sans cause et sans raison. Cette chose-là, donc cette volonté, il l'appelle indifferentiam puram, donc il l'appelle indifférence pure, lui donne des noms, des titres, des distinctions étranges, et en tire une quantité innombrable de choses et de merveilles philosophiques incompréhensibles, comme on peut s'en rendre compte aisément. Étant donné cependant que la chaîne des causes se trouve par le fait rompu, c'est-à-dire s'il existe une liberté de cette sorte, hein, qui est capable d'agir sans raison, la chaîne des causes va se trouver interrompue aux endroits où elle intervient. Étant donné cependant que la chaîne des causes se trouve par le fait rompu, ils ne savent pas comment ils doivent expliquer l'omniscience de Dieu qui repose sur le fait qu'il est la cause première, l'ens ace, l'être par soi, dont proviennent toutes choses, comme ils l'enseignent eux-mêmes. Donc Leibniz, dans ce passage, va s'efforcer de démontrer que l'idée d'une liberté d'indifférence est intrinsèquement incompatible avec l'idée de la préscience divine. Parce que, évidemment, la préscience divine ne peut être constituée que par une connaissance authentique de ce qui arrivera. Une connaissance authentique, ça veut dire une connaissance par les causes ou par les raisons. Et par conséquent, s'il y a des choses, notamment certains actes volontaires, hein, s'il y a des choses qui se produisent sans aucune espèce de raison, Dieu ne peut avoir aucune connaissance anticipée, hein, de ces choses-là. Et là, Leibniz fait allusion à un épisode de la Bible qu'il utilise assez souvent, à propos duquel il se trouve posé une question sur laquelle j'aurai à revenir plus tard, enfin sans doute pas cette année, mais au moins l'année prochaine, qui est la question de ce qu'on appelle la science moyenne. La science moyenne, c'est un type de science qui est attribué à Dieu, en plus des deux autres, la science de vision et la science de simple intelligence. Alors la science moyenne, c'est la science qui rend possible la connaissance de la vérité de certaines propositions conditionnel irréel, ayant trait à des choses qui se seraient passées si certaines circonstances, qui dans les faits ne se sont pas réalisées, s'étaient réalisées. Donc le problème est de savoir comment Dieu peut avoir connaissance de la vérité de certains futurs contingents conditionnels. Il y a deux espèces de futurs contingents qui sont distingués à l'époque par ceux qui réfléchissent à cette question. Les futurs contingents absolus, c'est-à-dire ceux qui auront lieu, de ceux-là, il est assez normal que Dieu ait une connaissance, puisque leurs causes vont se réaliser, et par conséquent, sachant que leurs causes sont réalisées, se réaliseront, Dieu sait que ces choses-là se réaliseront. Mais qu'en est-il des futurs contingents conditionnels, c'est-à-dire des futurs qui consistent dans le fait que si certaines circonstances irréelles, c'est-à-dire des circonstances qui ne se sont pas réalisées et ne se réaliseront pas, ces futurs conditionnels irréels donc consistent dans le fait que si ces circonstances étaient réalisées, certaines conséquences en seraient résultées. Alors il y a un épisode que Leibniz cite à chaque fois, ou à peu près, qu'il est question de ce problème. C'est ce qui est évoqué dans la suite du passage. Par exemple, quand Ébiatar, sous l'effet d'une inspiration divine, prédit à David que si Saül se présente devant Siclag, les citoyens le livreront aux assiégeants. Ils ne savent pas comment faire pour dire comment Dieu peut bien savoir ce que les citoyens de Siclag auraient fait, étant donné que la volonté libre des Siclagites est une chose tout à fait indifférente, qui n'est liée à aucune cause, dans laquelle Dieu ne peut voir la moindre chose, et cela même s'il considérait aussi exactement qu'on veut toutes les circonstances dans lesquelles les hommes ont l'habitude de trouver leur refuge, et cela d'une façon qui est assez souvent infaillible. Donc il n'y a rigoureusement rien, à partir de quoi, aucune chose à partir de laquelle Dieu puisse savoir avec certitude de quel côté penchera la balance de leur volonté libre. Donc s'ils disposent d'une volonté de l'espèce considérée, qui est catégoriquement rejetée par Leibniz et par Cudworth, il est rigoureusement impossible de savoir ce qu'ils feront, puisque quelles que puissent être les circonstances, quelles que puissent être les raisons, ils peuvent toujours encore se décider indifféremment, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors l'épisode auquel Leibniz fait allusion est un épisode qui est raconté dans le premier livre de Samuel, si je me souviens bien. Ça se passe à un moment où David est poursuivi par Saül, et à un moment donné, il songe à aller se réfugier dans une ville qui s'appelle Keïla, ou selon d'autres orthographes, Kejila, Ke et accent aigu, J-I-L-A, ou encore, vous trouverez le nom orthographié aussi, Kehila, K-E-H-I-L-A. Et là, il y a une bizarrerie que j'ai signalée il y a déjà longtemps, sans que ça suscite l'intérêt des Leibniziens. C'est pas que ça soit très important, mais à chaque fois qu'il parle de cet épisode, Leibniz semble confondre deux villes et deux épisodes. Il y a la ville de Keïla, où s'est passé réellement l'épisode auquel il songe. Donc David, ayant pour échapper à Saül, a songé à aller se réfugier dans cette ville. Et puis il s'est inquiété de savoir ce que les citoyens de Kejila ou Keïla feraient au cas où ils se réfugieraient dans la ville. Il a donc fait demander à Dieu par un prêtre inspiré qui s'appelait Ebiatar, ou selon une autre orthographe, Abiatar, ce que feraient les Kejilites. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans la situation qui correspond, qui est susceptible de faire l'objet de ce que on appelle donc ce que certains appellent la science moyenne, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils auraient fait si, c'est-à-dire si certaines circonstances, en l'occurrence, si avaient été réalisées, en l'occurrence, si David avait fait le choix d'aller se réfugier dans la ville. Et le prêtre Ebiatar donc a répondu à David que s'il allait se réfugier dans Keïla, Kejila, il serait livré par les habitants à Saül. Donc il a tenu compte de cet avis, il a évité de le faire, et il a réussi ainsi à échapper à Saül. Or, quand Leibniz parle de cet épisode, il appelle les habitants de Keïla les Cyclagites, et il lui arrive aussi d'appeler la ville Keïla Cyclag, comme c'est le cas dans ce passage. En réalité, la ville de Cyclag est le lieu d'un épisode tout à fait différent. C'est le lieu d'un épisode de la guerre de David contre les Amalécites. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est d'un intérêt tout à fait mineur. Ce qui nous intéresse davantage, c'est le fait qu'il se sert ici du problème de la science moyenne, sur lequel dont il nie la réalité. Hein. Il nie que Dieu ait besoin d'un type de science spéciale qu'on pourrait appeler la science moyenne. Donc il occupe une position intermédiaire entre ce qu'on appelle la science de simple intelligence et la science de vision. Donc il nie la réalité de cette science. Une des objections qu'il fait est que, de toute façon, si Dieu connaît la vérité de ces conditionnels irréels, ces propositions conditionnelles irréelles, du type si David était allé se réfugier dans Keïla, il aurait été livré à Saül par les habitants, s'il connaît la vérité de ces conditionnels irréels, il ne peut la connaître que par les raisons, comme d'habitude par les raisons, qui est le seul type de connaissance qui est digne de Dieu. Le seul type de connaissance digne de Dieu, c'est la connaissance par les raisons. Or, il est tout à fait clair que si il existait quelque chose du genre de ce qu'on appelle l'indifférence pure, hein, c'est-à-dire s'il pouvait exister une volonté qui se décide de façon purement arbitraire, c'est-à-dire sans être motivée par aucune espèce de raison, il serait impossible, absolument impossible de prévoir ce que fera un être volontaire, puisque jusqu'au dernier moment, il pourrait, même si les raisons sont aussi fortes qu'on veut, et incline aussi fortement qu'on veut dans un sens plutôt que dans un autre, une volonté de cette sorte pourrait toujours encore choisir le parti contraire. Donc ça, c'est un des arguments qu'il utilise au passage, si on peut dire, contre l'idée d'une liberté d'indifférence. Donc vous pouvez ajouter cette considération-là à celle dont je vous avais déjà parlé. Alors je voudrais à présent revenir juste un instant sur le passage dans lequel il est question de la mort de Turenne. Leibniz dit « J'ai l'habitude de dire qu'une mouche pourrait changer tout l'état quand elle tournoie en sifflant devant le nez d'un grand roi qui est justement impliqué dans des délibérations importantes, car du fait qu'il peut se faire que son entendement soit en quelque façon en balance, donc on peut imaginer une situation d'équilibre, bien que, et Leibniz insiste sur ce point, une situation d'équilibre complet entre deux options est extrêmement difficile à imaginer et certainement dans les faits rarissime. Mais imaginons qu'il y ait une situation d'équilibre parfait entre deux options. Donc il se trouve des deux côtés, dit-il, des raisons fortes, hein, de forces égales. Il peut néanmoins arriver, dit-il, que les propositions qui l'emporte, soit celle auquel sa pensée s'attache le plus, donc il va prêter une plus grande attention à une des deux options, et c'est ce que peut faire la mouche et l'empêcher et le perturber justement quand il veut considérer comme il faut une autre chose. Donc il ne va pas accorder l'attention que dans d'autres circonstances il aurait accordée aux parties opposées. Donc il va se trouver qu'il va accorder sa préférence, donc la mouche hein, qui constitue un élément parfaitement extérieur à la situation, va créer un déséquilibre et entraîner la décision dans un sens précis qui, sans elle, n'aurait peut-être pas été celui qui serait choisi. Ceux qui entendent quelque chose à l'artillerie, ajoute-t-il, savent comment un petit changement peut faire qu'un boulet adopte une trajectoire complètement différente. C'est pourquoi il est tenu à une petite chose que Turenne, par exemple, soit touché. Et si cela, n'était malgré tout pas arrivé, pardon, toute la guerre qui avait lieu à ce moment-là aurait pu prendre un cours différent et les états de choses actuels qui sont sortis de cela seraient par conséquent également différents. Donc nous avons une situation typique dans laquelle un tout petit changement dans les causes aurait pu provoquer une différence énorme dans la suite des événements. On sait également, de la même façon, qu'une étincelle qui tombe dans un magasin à poudre peut ruiner tout un monde. Là, vous avez une anticipation tout à fait directe de Maxwell, qui fait une observation qui est exactement du même genre. Et justement, cet effet des petites choses a pour conséquence que ceux qui ne réfléchissent pas comme il le faudrait aux choses s'imaginent que quelque chose arrive par hasard et non par l'effet du destin, alors que pourtant la différence n'est pas dans le fait, mais seulement dans notre entendement, étant donné que celui-ci ne comprend pas la multitude considérable des petites choses qui doivent être rattachées à n'importe quel fait et ne songe pas à la cause qu'il ne voit pas, ce qui fait qu'il s'imagine que les points au dé tombent par hasard. Donc, Nietzsche fait remarquer que quand nous sommes confrontés à une situation de ce genre, nous avons, c'est-à-dire quand nous ignorons le détail du fonctionnement du mécanisme causal qui va entraîner l'événement, dans des situations où ce mécanisme causal est extrêmement complexe, c'est-à-dire met en jeu une infinité de causes de nature différente, et en particulier de petites causes dans lesquelles des petits changements seraient susceptibles d'entraîner, de provoquer des différences considérables. Donc dans des situations de ce genre, nous avons tendance à dire que les choses qui arrivent se produisent sous l'effet du hasard, hein, et ce qui nous amène à dire que les points qui tombent au dé, c'est-à-dire le fait qu'on obtienne un résultat déterminé au dé, est le résultat du hasard. Et nous avons tendance à parler du hasard un petit peu comme si le hasard était une cause qui supplée à l'absence de cause. C'est-à-dire le hasard est supposé être la cause qui intervient quand il n'y a pas de cause, quand nous sommes incapables de reconnaître d'autres causes de nature quelconque. Cette infaillibilité du destin, ajoute Leibniz, c'est la leçon morale qu'on peut tirer de cette situation, cette infaillibilité du destin peut nous servir pour la tranquillisation de notre esprit. Nous trouvons la même chose dans les nombres, les figures, les forces et toutes les choses mesurées. Nous avons un concept exact, à savoir qu'ils sont non seulement corrects et immanquables, mais également tout à fait ordonnés et beaux, et donc qu'ils ne peuvent être améliorés ni désirés être meilleurs par celui qui les comprendrait. Donc la consolation, c'est que certes, les choses se produisent de façon certaine et infaillible, pas de façon nécessaire, hein, j'y insiste, parce que Leibniz tient par-dessus tout à distinguer ces deux choses. Donc les événements qui arrivent certes de façon certaine et infaillible, mais nous pouvons trouver une consolation dans le fait qu'ils sont, comme il dit, non seulement corrects et immanquables, mais également tout à fait ordonnés et beaux. Et donc on ne peut pas souhaiter sincèrement qu'ils soient autres, parce qu'ils ne pourraient pas être meilleurs. Alors je vous avais déjà dit la dernière fois que, après avoir cité ce passage très, très typique de Leibniz, il est peut-être utile de citer un passage de Poincaré qui porte sur le même sujet. C'est un passage dans lequel Poincaré essaie d'apporter un commencement de réponse à la question de savoir dans quel cas nous parlons de hasard. Quand parlons-nous de hasard? Et il fait une constatation qui va tout à fait dans le même sens que celui de Leibniz. Nous, les cas les plus typiques dans lesquels nous parlons de hasard sont les cas dans lesquels il y a une disproportion considérable entre la petitesse des causes et la grandeur et quelquefois l'énormité des effets. Alors Poincaré considère différents exemples dont on peut se servir pour illustrer cela. Il en considère trois. Il dit donc le premier exemple. Donc le problème, c'est de savoir dans quel cas, hein, est-ce qu'on est amené naturellement à parler de hasard et d'événements qui sont l'effet du hasard. Il dit, le premier exemple que nous allons choisir est celui de l'équilibre instable. Si un cône repose sur sa pointe, nous savons bien qu'il va tomber, mais nous ne savons pas de quel côté. Il nous semble que le hasard seul va en décider. Vous voyez, donc c'est exactement la situation que décrit Leibniz. Il nous semble que le hasard seul a décidé si le boulet qui est sorti du canon suivrait ou non une trajectoire susceptible de lui faire rencontrer à un moment donné, susceptible de lui faire atteindre à un moment donné Turenne. Donc c'est le hasard qui a décidé cela. Donc nous ne savons pas de quel côté le cône va tomber et nous sommes tentés de dire qu'il va tomber sous l'effet du hasard. Si le cône était parfaitement symétrique, c'est une situation qui correspond, si vous voulez, un peu à la liberté de l'indifférence, hein, si, aucune asymétrie d'aucune sorte, si le cône était parfaitement asymétrique et si son axe était parfaitement vertical, s'il n'était jamais soumis à aucune force que la pesanteur, il ne tomberait pas du tout. Mais le moindre défaut de symétrie va le faire pencher légèrement d'un côté ou de l'autre, et dès qu'il penchera si peu que ce soit, il tombera tout à fait de ce côté. Si même la symétrie est parfaite, une trépidation très légère, un souffle d'air, pourra le faire incliner de quelques secondes d'arc. Ce sera assez pour déterminer sa chute, et même le sens de la chute qui sera celui de l'inclinaison initiale. Une cause très petite qui nous échappe détermine un effet considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir, donc nous ne voyons pas la cause, évidemment, qui est trop petite, mais nous voyons l'effet qui est en revanche parfaitement perceptible et même considérable. Et alors nous disons que cet effet est dû au hasard. Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la situation de l'univers à l'instant initial, nous pourrions prédire exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur, mais lors même que les lois naturelles n'auraient plus de secret pour nous, nous ne pourrions connaître la situation initiale qu'approximativement. Autrement dit, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'arriver à une description, à une caractérisation suffisamment précise de la condition, des conditions initiales, hein, de la situation initiale, pour que la prédiction soit possible. Dans les cas de cette sorte, j'avais déjà insisté sur le fait qu'il y a un divorce entre le caractère déterminé du système et la prédictibilité de son comportement. Donc il y a un divorce qui se produit entre le déterminisme et la prédictibilité. Mais nous ne pouvons connaître la situation initiale qu'approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec la même approximation, c'est tout ce qu'il nous faut. Nous disons que le phénomène a été prévu, qu'il est régi par des lois. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendre de très grandes dans les phénomènes finaux. Une petite erreur sur les premières, c'est-à-dire sur les conditions initiales, produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit. Donc, remarquez le parallélisme tout à fait frappant avec le genre de situation que décrit Leibniz. Donc, nous avons une situation dans laquelle un événement est provoqué par des causes qui sont telles que la prédiction est extrêmement difficile parce qu'il faudrait, pour pouvoir effectuer une prédiction intéressante, il faudrait être capable de décrire les conditions initiales avec un degré de précision que nous ne sommes de façon générale pas en mesure d'atteindre, ce qui fait que nous sommes confrontés à une situation où nous pouvons réussir à caractériser le comportement initial du système, mais très très vite, évidemment, en raison de l'imprécision relative dans la description des conditions initiales, le système est susceptible d'emprunter des trajectoires qui peuvent diverger de façon considérable. Alors dans ce cas-là, donc, on parlera de hasard. Il y a un autre exemple qui est tout à fait banal, c'est l'exemple de la météorologie. Hein, Poincaré dit, notre second exemple sera fort analogue au premier et nous l'emprunterons à la météorologie. Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelques certitudes? Pourquoi les chutes de pluie, les tempêtes elles-mêmes nous semble-t-elle arriver au hasard, de sorte que bien des gens trouvent tout naturel de prier pour avoir la pluie ou le beau temps, alors qu'ils jugeraient ridicule de demander une éclipse par une prière. Remarquez ça, c'est un peu contestable. Je crois me rappeler que c'est Swift qui, alors qu'il était doyen, je crois, de la cathédrale Saint-Patrick, était censé y avoir une éclipse de soleil, il était censé y avoir une éclipse de soleil, c'est ça. Et alors, toute la foule de Dublin s'est rassemblée sur la place pour assister à l'éclipse de soleil. Et à un moment donné, Swift a fait savoir, en tant que doyen de la cathédrale, il a fait savoir que, par ordre du doyen, l'éclipse était annulée. Et il paraît que toute la foule s'est dispersée dans le plus grand calme. Personne n'a protesté, ce qui prouve que la différence n'est peut-être pas tout à fait aussi grande que le croit Poincaré. Mais en tout cas, bon, il a raison, la difficulté principale dans le cadre de l'évolution de la météorologie, ce n'est pas tellement qu'il y aurait quelque chose qui mériterait d'être appelé une absence de raison ou de cause, hein, mais c'est qu'encore une fois, le mécanisme des causes est extraordinairement difficile à connaître avec le minimum de précision nécessaire pour effectuer des prédictions suffisamment fiables, tout au moins à plus ou moins long terme. Hein. On peut évidemment prédire avec un degré de certitude raisonnable l'évolution du système sur quelques jours. Au-delà, évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Donc nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans des régions où l'atmosphère est en équilibre instable, qu'un cyclone va naître quelque part, mais où ils sont hors d'état de le dire, un dixième de degré en plus ou en moins, en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là. Il étend ses ravages sur des régions qui l'auraient épargné, enfin, sur des contrées qui l'auraient épargné. Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées, ni assez précises. Et c'est en cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Là, ici encore, nous retrouvons le même contraste entre une cause minime, inappréciable pour l'observateur, et des effets considérables qui sont quelquefois d'épouvantables désastres. Donc, vous voyez, le principe général, c'est que notre idée du hasard semble être liée assez fortement, au moins au départ, à cette disproportion qui peut être dans certains cas considérable et dramatique, hein, entre la petitesse des causes et l'importance des effets. Bien entendu, je l'avais déjà signalé, ni pour Poincaré, ni pour Leibniz, parler d'événements qui arrivent par hasard ne pourrait vouloir dire parler d'événements qui arrivent sans cause. C'est même évidemment le contraire que l'un et l'autre cherchent à dire. On a beaucoup reproché à Leibniz, à ce propos, l'espèce d'arrogance intellectuelle que semble comporter le fait d'exiger de tout ce qui arrive qu'il ait une raison que l'on peut en principe trouver. Raison qui peut être indiquée au moins par Dieu. Et donc on a considéré sur le principe de la défense inconditionnelle que Leibniz fait du principe de raison suffisante comme une forme d'hybris rationaliste et même d'arrogance. Bon, est-ce que ce n'est pas demander trop que de demander que de tout ce qui arrive, il puisse être rendu raison et qu'il puisse être indiqué pourquoi il arrive plutôt que son contraire, qu'autre chose. Mais il faut remarquer qu'il n'est sans doute pas aussi facile qu'on le suggère souvent de penser autrement que ne le font les gens comme Leibniz, en d'autres termes, d'admettre qu'il puisse y avoir des événements sans raison ou sans cause. Et sur ce point, je vais me permettre de citer un auteur que personne ne serait tenté de considérer comme un rationaliste dogmatique, et arrogant, je veux parler de Jean-Jacques Rousseau. Vous avez sous les yeux un extrait d'une lettre à Voltaire qui est de 1756 et cet extrait donc est cité par Jean Largeau dans un article que je vous recommande de lire qui s'intitule « Cause, causalité, déterminisme ». C'est un article qui est paru dans les archives de philosophie, le numéro 44, en 1981. Et Largeau donc a trouvé dans cette lettre à Voltaire donc un passage qui est en quelque sorte leibnizien, ce qui peut sembler à première vue surprenant. Rousseau dit « Loin de penser que la nature ne soit point asservie à la précision des quantités et des figures, je croirais tout au contraire qu'elle seule suit à la rigueur cette précision, parce qu'elle seule sait comparer exactement les fins et les moyens et mesurer la force à la résistance. Quant à ces irrégularités prétendues, peut-on douter qu'elles n'aient toutes leurs causes physiques et suffit-il de ne la pas apercevoir pour nier qu'elle existe ? Donc même les irrégularités apparentes, même les irrégularités les plus flagrantes, doivent avoir leur raison. Ces apparentes irrégularités, dit Rousseau, viennent sans doute de quelques lois que nous ignorons et que la nature suit tout aussi fidèlement que celles qui nous sont connues. De quelques agents que nous n'apercevons pas et dont l'obstacle ou le concours à des mesures fixes dans toutes ces opérations. Autrement dit, donc ces apparentes irrégularités proviennent à coup sûr hein, de lois que nous ignorons que la nature suit tout aussi fidèlement que celles qui nous sont connues proviennent de quelque agent que nous n'apercevons pas et dont l'obstacle ou le concours à des mesures fixes dans toutes ces opérations. Autrement, il faudrait dire nettement qu'il y a des actions sans principe et des effets sans cause, ce qui répugne à toute philosophie. Donc vous voyez que l'idée qu'il puisse y avoir des effets sans cause est une chose qui répugne tout autant à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau qu'à celle de Leibniz. Donc il faut bien garder présent à l'esprit qu'il n'est pas, probablement pas aussi facile qu'on le suggère parfois de réussir à penser que des choses pourraient arriver sans raison ou sans cause. Alors l'article de Largeau, qui a utilisé comme épigraphe cette citation, donc il l'a mis en épigraphe de son article, l'article de Largeau a été écrit à un moment où on entendait répéter sur tous les tons que le paradigme déterministe de Laplace devait être considéré désormais comme définitivement mort et enterré. C'est une idée qui avait été fortement encouragée, donc c'est la fin des années 70, c'est le début des années 80. Alors cette idée, donc l'idée qu'on avait terminée définitivement avec Laplace, cette idée avait été fortement encouragée par la parution en 1978 du livre d'Ilia Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance. Alors cette situation n'est pas complètement sans rapport du reste avec le fait que j'ai choisi pour mes deux dernières années d'enseignement au Collège de France de parler de Leibniz et du problème de la compatibilité du déterminisme avec la liberté. D'une part, je n'étais pas du tout convaincu à l'époque que l'on puisse en terminer aussi facilement avec le paradigme déterministe, ni que l'impossibilité de le concilier avec l'existence de la liberté soit aussi évidente. D'autre part, j'ai été, je l'avoue, très étonné de voir que certains de ceux qui emboîtaient le pas avec le plus d'enthousiasme aux deux auteurs de la Nouvelle Alliance, comme par exemple Michel Serres, étaient en même temps des admirateurs à peu près inconditionnels de Leibniz. Pas une fois, je n'ai entendu dans ce contexte formuler la moindre réserve à l'égard de la position que défend Leibniz, qui est tout aussi rigoureusement déterministe que celle de Laplace. Bon, je ne sais quelle raison, on avait le sentiment que Leibniz, il ne pouvait pas y avoir de reproche à adresser à Leibniz sur cette question. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être que la campagne entreprise contre le déterminisme et en faveur de la réhabilitation du hasard a suscité à l'époque une réaction violente de la part d'un défenseur fervent du déterminisme, je veux parler du mathématicien René Thom, dans un article fameux intitulé « Halte au hasard, silence au bruit ». Alors, il s'agit d'un article qui est paru dans le débat numéro 3, daté de juillet-août 1980. Alors, dans cet article, donc, Thom s'en prenait avec violence à tous les gens qui étaient en train d'essayer de réhabiliter le hasard, qui le faisaient d'ailleurs assez souvent avec l'idée qu'il fallait absolument réhabiliter le hasard si on voulait réhabiliter la liberté, si on voulait rendre possible à nouveau la liberté. Ce qui est une opération qui avait déjà été tentée dans les débuts de la mécanique quantique. On avait déjà dit, si l'indéterminisme est réel, alors la liberté redevient possible. Donc, en vertu du présupposé selon lequel il est impossible, contrairement à ce que croyait Leibniz, hein, il est impossible de réconcilier la liberté avec le déterminisme. Alors, Thom commence son article en disant... Alors, il a intitulé ça... Halte au hasard, silence au bruit, et il ajoute à un moment donné, dans le cours de l'article, j'aurais pu ajouter « Mort au parasite ». Il fait allusion à un livre qui avait eu également un certain retentissement intitulé « Le parasite », qui avait été publié par Michel Serres. Alors Thom commence en disant « Ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie populaire française, nous reviendrons plus tard sur ce phénomène étrange, nous a gratifié ces dernières années d'un certain nombre d'ouvrages dont certains ont atteint une grande célébrité. Je citerai « Le hasard et la nécessité » de Jacques Monod, La méthode d'Edgar Morin, Entre le cristal et la fumée d'Henri Atlan et La nouvelle alliance d'Ilia Prigogine et Isabelle Stengers. Les philosophies sous-jacentes à ces diverses œuvres sont diverses, parfois même opposées. Mais assez curieusement, elles ont tout un trait commun, à savoir toutes glorifient outrageusement le hasard, le bruit, la fluctuation, toutes rendent l'aléatoire responsable soit de l'organisation du monde via les structures dissipatives, selon Prigogine, soit de l'émergence de la vie et de la pensée sur Terre, via la synthèse et les mutations accidentelles de l'ADN, selon Monod. Et l'ami Michel Serres n'est pas en reste, lui qui, dans sa naissance de la physique, s'est fait le turiféraire passionné du clinamen de Lucrèce. Je voudrais dire d'emblée que cette fascination de l'aléatoire témoigne d'une attitude anti-scientifique par excellence, donc vous voyez que Tom adopte une position qui est tout à fait claire et tranchée sur cette question. De plus, dit-il, dans une large mesure, elle, c'est-à-dire cette conception, procède d'un certain confusionnisme mental, excusable chez les auteurs à formation littéraire, tant pis pour eux, mais difficilement pardonnable chez des savants en principe rompus aux rigueurs de la rationalité scientifique. Qu'est-ce en effet que l'aléatoire ? On ne peut en donner une définition que purement négative, est aléatoire un processus qui ne peut être simulé par aucun mécanisme ni décrit par aucun formalisme. Excusez-moi, il faut que je vous montre la suite. Donc, qu'est-ce que l'aléatoire ? On ne peut en donner une définition que purement négative, est aléatoire un processus qui ne peut être simulé par aucun mécanisme ni décrit par aucun formalisme. Affirmer que le hasard existe, entre guillemets, c'est donc prendre cette position ontologique qui consiste à affirmer qu'il y a des phénomènes naturels que nous ne pourrons jamais décrire, donc jamais comprendre. Donc, vous pouvez affirmer que l'existence d'un hasard objectif, c'est, dit Tom, affirmer qu'il y a des phénomènes naturels que nous ne pourrons jamais décrire, donc jamais comprendre. C'est renouveler le célèbre ignorabimus de Dubois-Raymond, c'est ressusciter la vague d'irrationalisme et d'anti-scientisme des années 1880-1890, celle des apôtres de la crise de la science, les Boutroux, les Leroy, etc. Le monde est-il astreint à un déterminisme rigoureux ou y a-t-il un hasard irréductible à toute description ? Ainsi posé, évidemment, le problème est de nature métaphysique et seule une option également métaphysique est en mesure de le trancher. Donc là, la réponse, la question n'est pas scientifique et n'admet pas de réponse scientifique, elle est métaphysique. En tant que philosophe, le savant peut laisser la question ouverte, mais en tant que savant, c'est pour lui une obligation de principe, sous peine de contradiction interne. C'est pour lui donc une obligation de principe d'adopter une position optimiste et de postuler que rien dans la nature n'est inconnaissable a priori. Donc, de facto, le savant est contraint d'opter pour, au moins pour des raisons méthodologiques, est contraint d'opter pour le déterminisme. Bon, le philosophe peut laisser la porte ouverte et peut même opter pour l'une ou l'autre des deux réponses, mais le savant, lui, dans l'esprit de Tom, n'a pas véritablement le choix, puisque, au fond, c'est une question d'intelligibilité, hein, accepter la réalité du hasard, accepter l'existence d'un hasard vrai, d'un hasard objectif, reviendrait à abandonner le postulat d'intelligibilité, ce que, évidemment, aucun savant, par profession, ne peut accepter de faire. Que des auteurs comme Atlan, Prigogine, dont la philosophie est fondamentalement anti-réductionniste, voire, pour le premier, mystique, aient adopté ce point de vue de l'hypostase du hasard, n'est pas pour surprendre, on sera plus étonné d'y trouver le matérialiste Jacques Monod. Mais Monod, en cette matière, n'a fait que suivre, sinon Darwin lui-même, du moins l'orthodoxie darwinienne, renforcée en néo-darwinisme. À cet égard, il est probablement légitime de dire qu'avec le darwinisme s'est introduite en science l'utilisation illégitime du hasard. Ce hasard qu'on avait cru définitivement enseveli sous les quolibets qui avaient salué le clinamen démocritéen, car au fond, en quoi l'appel au hasard pour expliquer l'évolution serait-il plus scientifique que l'appel à la volonté du créateur ? Le hasard serait-il autre chose qu'un substitut laïque de la finalité divine, comme la téléonomie est d'un substitut avouable de la téléologie ? Donc, ça, c'est une critique tout à fait directe de Monod, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, ni d'ailleurs sur la question en général, puisque ce qui nous intéresse, c'est évidemment la position de Leibniz. Alors, j'aimerais vous citer à ce propos deux passages supplémentaires qui sont tirés de l'article de Largeau, auquel j'ai déjà fait référence. Deux passages donc, qui permettent, je crois, d'y voir un peu plus clair sur ce qui est en question dans ce débat, un débat dans lequel l'auteur Largeau, comme vous l'avez sans doute déjà pressenti, prend résolument le parti de Tom. D'une part, il rappelle qu'on ne sait malheureusement toujours pas ce qu'il faut entendre par le mot « hasard ». Il rappelle en particulier qu'on est encouragé fortement, pour des raisons compréhensibles, à traiter la question du déterminisme en termes de stabilité, mais que, contrairement à ce que beaucoup semblent croire, on ne peut pas conclure de l'instabilité d'un système dynamique à son caractère non déterministe. Donc, ce que vous avez dans le passage qui figure sur l'écran, il est. Alors, Largeau remarque, vous le voyez dans le haut de la page, hein, il est facile d'assurer le déterminisme épistémique par le déterminisme ontologique, puisque le second est une supposition plus forte, donc on peut conclure du déterminisme ontologique au déterminisme épistémique, mais on ne peut pas conclure de l'indétermination épistémique à l'indétermination Oui, il est facile donc d'appuyer le déterminisme épistémique sur le déterminisme ontologique, mais le fait que les systèmes soient déterminés du point de vue ontologique ne nous donne pas la garantie qu'ils sont déterminés également du point de vue épistémique, c'est-à-dire que nous sommes en mesure d'en donner une description qui nous permet d'effectuer des prédictions suffisamment sûres. Alors, voyez maintenant le deuxième paragraphe, les manuels dans lesquels il est question des relations entre la question du déterminisme et la question de la stabilité. L'Arjodi, les manuels récents encouragent à discuter du déterminisme en termes de stabilité. Depuis 1900, les mathématiciens en ont étudié maintes variantes. Ce qui est observable ne se répète jamais à l'identique et doit en même temps persister suffisamment pour se pouvoir observer. Ainsi, les notions mathématiques de stabilité ont la plus grande pertinence pour les sciences empiriques. Dans cette lumière, les réflexions de Maxwell, très antérieures, acquièrent un relief étonnant. Effectivement, Maxwell avait déjà donc parfaitement décrit ce qu'on appelle les systèmes instables. Il avait déjà donné une caractérisation tout à fait précise et tout à fait moderne de ce qu'on appelle les systèmes instables. On a lieu d'espérer que l'examen de la stabilité et de l'instabilité jettera de grandes lueurs sur ces questions. Lorsque l'état de choses est tel qu'une variation infiniment petite de l'état présent ne modifiera que d'une quantité infiniment petite l'état en quelques moments futurs, la condition du système, qu'il soit au repos ou en mouvement, sera dite stable. Mais quand une variation infiniment petite est susceptible de provoquer une différence finie dans l'état du système, au bout d'un temps fini, sa condition sera dite instable. Donc, différence finie qui peut être plus ou moins importante. L'existence de conditions initiales instables empêche de prédire les événements futurs si notre connaissance de l'état présent est déjà approximative, est déjà approchée et inexacte. Il a été souligné que la stabilité physique caractérise les systèmes dont l'étude inspire aux déterministes leurs arguments. Donc les déterministes se sont intéressés essentiellement à des systèmes stables, c'est-à-dire des systèmes qui ne posent pas le genre de problème que posent les systèmes instables. Les systèmes instables se caractérisant par ce que j'ai appelé donc le divorce entre le déterminisme et la prédictibilité. Alors, peut-être que ce n'est pas la peine de s'apesantir trop sur la suite. La théorie des systèmes dynamiques corrobore ex poste les propos de Maxwell. Le déterminisme était un postulat avoué ou non. Après avoir cru qu'il réussit partout, on s'est pris à douter qu'il réussisse quelque part, à cause précisément de la prise en considération des systèmes instables. L'étude de la stabilité rend raison, au moins dans certains cas, des limites où il est applicable. Grâce à la considération des systèmes instables, on a pris conscience des limites du déterminisme. Est-ce que ça oblige à contester qu'il puisse y avoir des systèmes déterministes? Certainement pas. Alors, voyez encore le dernier paragraphe dans lequel l'Arjodi, la question du déterminisme ontologique ne peut pas se décider par l'étude des conditions de stabilité. On ne peut pas utiliser l'étude des conditions de stabilité pour décider la question du déterminisme. La question du déterminisme ontologique ne peut pas se décider par l'étude des conditions de stabilité parce que l'instabilité est suffisante pour empêcher d'autres prévisions que probabilistes. Donc l'instabilité a pour conséquence que le seul type de prédiction qui est possible est la prédiction probabiliste, mais l'instabilité ne prouve pas à coup sûr que le phénomène est en soi indéterminé. Souvent, aucun critère expérimental ne permet de distinguer un phénomène structurellement instable et déterminé d'un phénomène foncièrement indéterminé. Ça, c'est une citation de Thom. Thom insiste sur le fait qu'aucun critère, il n'y a pas de critère expérimental qui permette de distinguer à coup sûr un phénomène qui est structurellement instable tout en étant déterminé, structurellement, c'est-à-dire intrinsèquement instable, tout en étant déterminé d'un phénomène foncièrement indéterminé. La constatation qu'il y a des systèmes, ne permet de distinguer, aucun critère expérimental ne permet de distinguer un phénomène structurellement instable et déterminé, c'est-à-dire un phénomène dont le comportement est parfaitement déterministe, tout en étant instable au sens indiqué. Aucun critère expérimental ne permet de distinguer un phénomène de cette sorte d'un phénomène qui est caractérisé par une indétermination intrinsèque, par une indétermination foncière. La constatation qu'il y a des systèmes plus ou moins déterminés équivaudrait à « il y a des systèmes plus ou moins stables ou de continuité plus ou moins lisse ». L'instabilité limite le déterminisme épistémique sans réfuter le déterminisme ontologique. C'est ça la conclusion importante. Donc l'instabilité limite le déterminisme épistémique, c'est ce qui veut dire limite essentiellement les possibilités de prédire avec une certitude suffisante, mais elle ne réfute pas le déterminisme ontologique. C'est une façon de constater à nouveau qu'il y a des systèmes qui, tout en étant rigoureusement déterministes, il y a des systèmes de cette sorte qui sont même d'une espèce relativement simple, qui ont un comportement qui devient rapidement imprédictible. Bon, je n'insiste pas davantage sur ces problèmes, sur lesquels je reviendrai plus tard, parce que je voudrais reprendre, et je pense que ça ne sera pas cette année, mais plutôt l'année prochaine, bon, regarder à nouveau de près cette question du ce problème du compatibilisme, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il possible de concilier le déterminisme avec l'existence de la liberté, ce qui est la position qui est défendue par Leibniz. Alors, une dernière chose sur laquelle je voulais insister, mais j'avais, je crois, déjà eu l'occasion de le faire, c'est que il faut surtout pas s'imaginer que, pour la raison que Leibniz est un rationaliste convaincu, il postule de façon dogmatique que toutes les actions sont, ou en tout cas devraient être, le résultat d'une délibération rationnelle. Quand il argumente contre l'idée d'une liberté d'indifférence, voulant dire par là qu'il y a toujours un petit déséquilibre qui se crée dans la situation, même quand il semble y avoir des raisons également fortes qui parlent en faveur de l'adoption du choix d'une solution, d'un type d'action plutôt que d'une autre. Donc même quand il y a des raisons également fortes donc, qui parlent en faveur des deux parties qui s'opposent, il y a toujours un petit déséquilibre qui finit par se créer quelque part. Ce déséquilibre n'est pas forcément un déséquilibre dans les raisons rationnelles, si on peut s'exprimer ainsi. Et là, vous avez un passage dans lequel Leibniz dit « Même si peut-être les raisons sont égales, les passions, néanmoins, ne seront pas égales. Pourquoi donc disputons-nous de choses qui n'existent pas ?» C'est-à-dire, s'il y a un équilibre parfait dans les raisons, il y a à peu près toujours un déséquilibre ailleurs. C'est-à-dire, il peut y avoir en particulier un déséquilibre dans les passions, il y a une passion un peu plus forte. Si vous avez deux options possibles qui s'opposent, avec, semble-t-il, des chances égales, hein, des raisons égales qui parlent en faveur de l'une ou de l'autre, deux options A et B, ben, il y aura toujours un petit déséquilibre quelque part, qui peut être un déséquilibre dans les passions. C'est-à-dire, il y aura une passion un peu plus forte qui parle en faveur de A plutôt que de B, et c'est elle qui fera la décision. Donc, encore une fois, le parti qui sera finalement adopté est le résultat de toute une composition de forces extrêmement complexe qui fait intervenir à la fois des éléments rationnels et des éléments qui ne sont pas du tout rationnels. Le point important, c'est pas dans cette discussion, c'est pas de savoir... C'est pas la nature exacte de l'élément qui va faire la décision. Ça peut être un élément tout à fait, à la limite, tout à fait étranger à la situation. C'est le cas de la mouche, dans l'exemple que nous avons considéré. Ça peut être un élément tout à fait étranger à la situation, mais il doit y avoir, Leibniz postule qu'il doit y avoir un élément de cette sorte. Il y a forcément un élément qui crée une asymétrie susceptible d'entraîner la décision. Alors, j'en arrive maintenant à mon chapitre 11, que j'ai intitulé « Le dominateur, les possibles » et le problème de la liberté. Et je voudrais revenir sur une chose dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, c'est-à-dire la fameuse aporie de Diodore. Alors, pour en arriver donc à une discussion un peu approfondie de la nature exacte de la réaction de Leibniz à l'égard de l'argument de Diodore. C'est-à-dire, je voudrais essayer de vous parler de façon un peu plus précise que je n'ai fait jusqu'à présent, de la manière dont Leibniz s'est comporté à l'égard de cette fameuse aporie dont Jules Villemin pense qu'elle a, d'une certaine façon, structuré et organisé toute la philosophie pratique. Alors, dans cette aporie de Diodore, il y a une prémisse à laquelle Leibniz considère comme particulièrement incommode, pour ne pas dire impossible de toucher, c'est celle qui énonce qu'il y a des possibles qui ne se réalisent pas. C'est une des prémisses de l'argument de Diodore, que certains ont considéré donc possible de reconsidérer ou même éventuellement d'abandonner. Leibniz, lui, considère que s'il y en a une à laquelle il est impossible de toucher, c'est bien celle-là. Donc il refuse catégoriquement de toucher, de reconsidérer cette prémisse selon laquelle il y a des possibles qui ne se sont pas réalisés, ne sont pas en train de se réaliser et ne se réaliseront pas. Il n'y a en effet aucun espoir de réussir à préserver la possibilité et la réalité de la liberté si on rejette cette présupposition. C'est ce que ce dont Leibniz est absolument convaincu, on ne peut pas préserver la liberté si on rejette cette prémisse-là, c'est-à-dire si on rejette l'idée qu'il y a des possibles qui ne se réalisent pas. La raison de cela est simple. Si tout ce qui est possible arrive à un moment ou à un autre, ce qui est la position qui est défendue, on le verra, par Diodore. Si tout ce qui est possible, donc si toutes les choses possibles sont des choses qui se réaliseront à un moment ou à un autre, ce sont des choses qui, si elles ne se sont pas encore réalisées, se réaliseront un jour. Donc si tout ce qui est possible arrive à un moment ou à un autre, alors tout ce qui n'arrive pas est impossible. Et cela contredit apparemment de façon directe la notion même de la liberté qui s'appuie sur l'idée d'un choix effectué entre des possibles dont certains auraient pu également être réalisés s'ils avaient été choisis, mais ne se réaliseront pas dans les faits. Donc là, l'idée de la liberté semble impliquer que nous sommes en mesure d'effectuer un choix entre des possibles dont certains, ceux que nous avons choisis, vont se réaliser, et d'autres, qui étaient effectivement possibles, ne se réaliseront pas. Donc l'idée de la liberté, si on veut pouvoir conserver l'idée de la liberté, il faut, semble-t-il, conserver cette idée qu'il existe des possibles qui, bien qu'ils aient été des possibles qui auraient pu se réaliser, mais elles ne se sont pas réalisées et ne l'ont pas fait précisément parce que nous avons fait des choix qui excluaient leur réalisation. Alors sur ce point, il semble que la position de Leibniz, après quelques hésitations initiales qu'il a reconnues lui-même, n'a plus varié. Alors, j'ai reproduit ici un extrait d'un texte qui s'appelle « De libertate », qui a été publié dans les opuscules et fragments inédits, qui a été édité par Fouché de Careil, dans lequel Leibniz dit « Il y a une interrogation dubitative très ancienne du genre humain concernant la manière dont la liberté et la contingence peuvent coexister avec la série des causes et la providence divine. » Donc si tout est le résultat, tout ce qui arrive est le résultat d'une série de causes qui a commencé avec les origines du monde, si d'autre part Dieu a, comme on le lui reconnaît, s'il a tout prévu et tout disposé de la meilleure façon possible, comment peut-il y avoir encore une réalité et une efficacité pour des actions libres ? Et la difficulté de la chose a été augmentée, dit Leibniz, par les recherches des chrétiens concernant la justice de Dieu quand il s'occupe du salut des hommes. Donc la théologie, au lieu, loin de simplifier les choses, les a au contraire compliqué encore un peu plus. Et là, Leibniz se livre à une chose qui ressemble un peu à une confidence personnelle. « Pour ma part, dit-il, comme je considérais que rien ne se fait par hasard ou par accident, si ce n'est par rapport à certaines substances particulières, et qu'une fortune séparée du destin est un nom vide, il n'y a pas de fortune ou de hasard réel, donc comme je considérais que rien ne se fait par hasard ou par accident, si ce n'est par rapport à certaines substances particulières, et qu'une fortune séparée du destin est un nom vide, et que rien n'existe, à moins que tous ces réquisites singuliers ne soient posés, mais que, inversement, de ceux-ci pris tous ensemble, il résulte que la chose existe, j'étais peu éloigné de l'avis de ceux qui pensent que toutes les choses sont absolument nécessaires et jugent qu'il suffit à la liberté d'être à l'abri de la contrainte, même si elle est soumise à la nécessité, et ne distingue pas, donc ceux qui ne distinguent pas, l'infaillible ou le vrai connu avec certitude du nécessaire. » Et là, il fait allusion donc, à une chose dont il était déjà question dans la lettre à Wederkopf, dont je vous ai parlé assez longuement, c'est-à-dire il reconnaît qu'il a été tenté de lui-même de croire qu'il était possible de concilier la liberté avec la nécessité. C'est-à-dire que tout ce qui était requis pour qu'on puisse parler de liberté, c'est l'absence de contrainte, mais pas l'absence de nécessité. Et puis par la suite, donc, il a été en mesure d'échapper au nécessitarisme et de résoudre le problème de façon satisfaisante en distinguant d'une part ce qu'on peut appeler l'infaillible ou le vrai et d'autre part le nécessaire. Mais, dit-il, ce qui m'a fait reculer et éviter ce précipice, donc le précipice du nécessitarisme, est la considération des possibles qui ne sont, ni ne seront, ni n'ont été. Donc ce qui lui a permis d'éviter le nécessitarisme, c'est la prise au sérieux de ce principe qui, selon lui, est un principe sur lequel on ne peut pas revenir, le principe selon lequel il y a des possibles qui ne sont pas, ne seront pas et n'ont jamais été. Car, dit-il, si certains possibles n'existent jamais, à coup sûr, les existants ne sont pas toujours nécessaires, donc s'il y a des possibles qui ne se réalisent pas, ça veut dire les possibles. Il résulte de cela que les possibles existants, donc les possibles qui se sont réalisés, ne sont pas toujours nécessaires, puisque d'autres possibles auraient pu se réaliser à leur place. Donc si certains possibles n'existent jamais, à coup sûr, les existants ne sont pas toujours nécessaires, sans quoi il serait impossible que d'autres existent à leur place, et par conséquent, toutes les choses qui n'existent jamais seraient impossibles. Et on ne peut pas nier pourtant qu'une quantité de fables... Alors là, il va reprendre un de ses arguments favoris qui consiste à faire remarquer qu'il y a une quantité de fiction, hein, une quantité d'êtres fictifs dont il est très difficile, qui sont assurément possibles, tout au moins à condition simplement que leur concept ne soit pas contradictoire, que leur concept ne recèle pas de contradictions internes. Donc il y a une quantité d'êtres imaginaires qui sont des êtres possibles, mais dont il est parfaitement déraisonnable de s'imaginer qu'ils doivent nécessairement avoir existé, exister en ce moment quelque part, ou devoir exister plus tard. On ne peut pas nier pourtant qu'une quantité de fables, telles que pour commencer celles qu'on désigne du nom de romans, sont possibles, et si elles trouvaient une place dans cette série de l'univers que Dieu a choisi, à moins que quelqu'un ne s'imagine que dans une étendue aussi grande d'espace et de temps, il y a des régions des poètes, tu pourrais... voir, errant à travers la terre, et le roi Arthur de Grande-Bretagne, dont il a lu au Chevalier de la Table Ronde, et Amadis des Gaules, et Théodoric de Vérone, illustré par les fictions des Germains. Alors, ce Théodoric de Vérone, il s'agit, si je me souviens bien, de Théodoric le Grand, qui était le roi des Ostrogoths, et qui s'est illustré notamment pour avoir conquis une partie de l'Italie. Et il y occupe effectivement, comme Leibniz le rappelle, une place importante dans les fictions et les légendes germanique. Alors, ce que Leibniz veut dire, c'est que si on adopte le point de vue selon lequel tous les possibles, ou bien se sont déjà réalisés à un moment donné, ou bien sont en train de se réaliser en ce moment, ou bien se réaliseront plus tard, alors il faut être prêt à accepter l'idée qu'il doit y avoir dans l'univers ce qu'il appelle des régions des poètes, ou les régions des romans, si vous voulez, dans lesquelles, si on pouvait aller s'y promener, on devrait s'attendre à rencontrer les personnages les héros des romans, du genre de ceux qu'il mentionne. Donc il faut être prêt à admettre que, ou bien il y a des régions des poètes dans l'espace, hein, qui font qu'en ce moment, hein, il existe quelque part des héros qui constituent le pendant exact, hein, de ceux dont il est question, des pendants exacts des êtres imaginaires dont il est question dans des romans comme Amadis des Gaules, etc. Ou bien donc il existe des régions dans l'espace dans lesquelles on peut s'attendre à rencontrer ces héros-là, ou bien il existe des régions dans le temps, il existe des régions du temps, hein, dans lesquelles ils sont susceptibles d'exister un jour. Alors Leibniz ne s'attarde pas à discuter longuement ce genre de supposition qui lui semble absurde, hein, ça lui semble à ses yeux être une vérité de simple bon sens que personne ne devrait être prêt à contester sérieusement que... Il existe une quantité donc d'êtres possibles, d'événements possibles dont il est parfaitement absurde, hein, de supposer que ou bien ils ont été réels, ou bien ils le sont, ou bien le seront. Donc, ayant commencé à évoquer cette question, il formule à nouveau sa critique classique contre Descartes, hein, qu'il soupçonne fortement d'avoir adopté une position de ce genre, hein, c'est-à-dire d'avoir défendu l'idée que tout est possible, ou bien se sont déjà réalisés, ou bien se réalisent en ce moment, ou bien se réaliseront plus tard. C'est, dit-il, une opinion dont un philosophe éminent de notre siècle ne semble pas avoir été très éloigné, donc il n'accuse pas d'avoir explicitement défendu une position de cette sorte, mais simplement d'en avoir été assez proche. Donc, un philosophe de notre siècle ne semble pas avoir été très éloigné, qui affirme quelque part expressément que la matière prend successivement toutes les formes dont elle est capable. Il s'agit d'un passage dont je vous ai déjà parlé, des principes de la philosophie, troisième partie, article 47, chose qui n'est pas du tout défendable. De cette façon, en effet, toute la beauté de l'univers et le discernement des choses seraient supprimés, pour ne rien dire pour le moment d'autres choses qui permettent de prouver le contraire. Donc, c'est tiré d'un fragment qui s'appelle « De Libertate » que vous trouvez reproduit dans les nouvelles lettres opuscules inédites de Leibniz, publié par Fouché de Careil. Alors, j'ai déjà parlé assez longuement de la critique que Leibniz formule contre Descartes, donc je n'y insiste pas. Je vais revenir donc à ce qui nous intéresse en premier lieu pour le moment, c'est-à-dire la fameuse aporie de Diodore, dans laquelle vous voyez que la troisième prémisse, la prémisse C, est précisément celle qui affirme qu'il y a des possibles qui ne se réalisent jamais. Alors, cet argument de Diodore, ou cette aporie de Diodore, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans les années précédentes, c'est une aporie extrêmement célèbre, dont Jules Villemin estime qu'elle a dominé et domine encore la philosophie de l'action, de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et dominent encore la philosophie de la nature. Donc, d'après lui, il y a une aporie, l'aporie de Diodore, qui a exercé un pouvoir structurant et organisateur sur toute la philosophie pratique, à peu près de la même façon que les apories de Zénon ont exercé un pouvoir organisateur sur toute l'histoire de la philosophie théorique. Alors, les paradoxes de Zénon portent sur les idées du continu et du mouvement, tandis que l'aporie de Diodore porte sur les idées de nécessité et de contingence. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de vous indiquer que Villemin s'est efforcé de reconstruire l'aporie de Diodore et donc de la reconstruire formellement. Il a même essayé de la formaliser. Et l'aporie consiste dans le fait qu'on a trois prémisses auxquelles il faut en ajouter en fait une quatrième, qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle. On a trois prémisses qui ont toutes l'air également plausibles et même évidentes, hein, de sorte qu'il est extrêmement difficile d'accepter de remettre en question l'une d'entre elles, et pourtant elles se révèlent être contradictoires, c'est-à-dire qu'il est impossible de les accepter toutes simultanément. Alors, voyez ce que dit sur ce point Villemin. Donc, une fois reconstruite, l'aporie se présente comme consistant à démontrer l'incompatibilité de trois, plus exactement de quatre prémisses fondamentales, donc A, B, C, auxquelles il faut ajouter, j'y reviendrai dans un instant, donc un principe qu'on peut appeler NC, le principe de nécessité conditionnelle. Tenons-nous-en pour le moment aux trois prémisses qui interviennent dans les discussions qu'il y a eu dans l'Antiquité. Donc il y a trois prémisses A, B et C. Une fois que la porie a été reconstruite, on se trouve dans l'obligation de choisir d'une manière telle que le choix va déterminer ce que Villemin appelle tout un... Ça va fournir l'équivalent d'une sorte de système a priori de l'histoire de la philosophie. Les choix faits sur ce point vont déterminer une sorte de système a priori de l'histoire de la philosophie. On admet les prémisses A et B et on refuse C, ou bien on admet B et C, on refuse A, ou bien on admet C et A et on refuse B. La première réponse, dit Villemin, est celle de Diodore. Donc la première réponse, celle qui consiste à accepter A et B et à refuser C, est celle de Diodore. Donc Diodore choisit de rejeter la prémisse à laquelle Leibniz tient par-dessus tout, c'est-à-dire il y a des possibles qui ne se réalisent pas, hein, aussi difficile que puisse être ce choix, c'est celui qu'il fait. Donc il choisit de contester la prémisse C. Il accepte les prémisses A et B, il conteste la prémisse C. La seconde solution, donc le second type de réponse, est la réponse de Cléante. Donc Cléante choisit B et C et rejette A. Et la troisième est celle de Chrysippe. L'histoire de Chrysippe, donc Chrysippe choisit C et A et rejette B. L'histoire des philosophies mégariques et stoïciennes se trouve donc enfermée dans cette combinatoire. Donc ça, c'est ce que dit Villemin dans « Nécessité ou contingence ». Alors, je vous ai reproduit ici le texte original d'Épictète, dans lequel est rapportée cette fameuse aporie. Épictète dit l'argument dominateur, donc ça s'appelle le curion, logos en grec, l'argument dominateur paraît avoir été posé en vertu des principes suivants. Il y a contradiction mutuelle entre ces trois propositions. Tout ce qui s'est réalisé dans le passé est nécessaire. Donc, ça, c'est la première prémisse. Hein, topare lelutos aletes anankaion esti. Hein, le vrai passé est nécessaire. Donc, ça, c'est la première prémisse, prémisse A. L'impossible ne peut être une conséquence du possible. To dunato, adunaton, mais acoluten. Donc, du possible, l'impossible ne suit pas. Ça, c'est la deuxième prémisse, donc la prémisse B. Et enfin, troisième prémisse, il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle ou n'en aura pas. Je cherche à retrouver la troisième prémisse. Dynaton einai, ut estinalites ut estai, c'est-à-dire il y a du possible qui n'est ni ne sera vrai. Et là, j'avais signalé l'année dernière, ou je ne sais plus, il y a deux ans, qu'il y a une erreur manifeste dans la traduction. La traduction dit il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle ou n'en aura pas. Alors que ce que dit le texte grec est en réalité il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle et n'en aura pas. C'est-à-dire, il y a du possible qui n'est pas réel en ce moment, donc n'est pas réalisé en ce moment et ne le sera pas. C'est la prémisse, c'est telle que je l'ai formulée et discutée, il y a des possibles qui ne se réalisent pas, qui ne se sont pas réalisés, qui ne sont pas en train de se réaliser et qui ne se réaliseront pas. Donc nous avons vu quels sont les... Ah oui, permettez-moi de vous signaler encore la réponse que Épictète donne à la question de savoir en quoi consiste sa position personnelle sur ce point. Et il indique clairement qu'il n'a pas l'intention de se lancer dans une discussion sur le fond concernant la question de savoir ce qu'il en est exactement et qui a raison. Il dit « Si donc on me demande, et toi, lesquelles de ces propositions conserves-tu » C'est-à-dire quel est le choix que tu fais toi-même ? Est-ce que tu choisis d'abandonner A, B ou C ? Donc, si donc on me demande, et toi, lesquelles de ces propositions conserves-tu ? Je répondrai que je n'en sais rien. Mais j'ai reçu l'information suivante, donc j'étais informé que Diodore conservait telle proposition, l'école de Pantoïdès, je crois, est Cléante telles autres, et celle de Chrysippe d'autres encore. Mais toi, quel est ton avis ? Je ne me suis pas occupé de cela, je veux dire de sonder, ma propre représentation, de comparer les différentes affirmations et de me former par moi-même un jugement sur le sujet. Aussi ne différais-je en rien du grammairien. Donc là, je n'entre pas dans une discussion sur la façon dont il faut comprendre exactement cette décision d'Épictète de s'abstenir de discuter la question sur le fond. Vous trouverez quelques remarques intéressantes dans le livre de Villemin, mais naturellement, ce ne sont pas ces choses-là qui nous intéressent de façon directe. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la façon dont la réaction de Leibniz à la situation. Alors, donc, l'argument de Diodore, j'ai reproduit ici donc, les trois prémisses mentionnées par Épictète. Hein, A, toute chose vraie, passée, est nécessaire. Comprenez, topare laelutos aletheis anenkaion esti, c'est-à-dire toute chose vraie, passée, est nécessaire. Comprenez, une fois qu'elle est passée, c'est-à-dire une fois qu'une chose passée est arrivée, elle est nécessaire. Elle a pu arriver de façon tout à fait contingente, hein, mais... Il peut s'agir d'un événement contingent, mais une fois qu'il est arrivé, une fois que l'événement est devenu passé, il est nécessaire dans un sens qui, bien entendu, reste à préciser. Prémisse B, du possible, l'impossible ne suit pas. Prémisse C, il y a des choses possibles qui ne sont pas vraies, ni ne le seront. Donc là, j'ai corrigé le dynaton estin o ut estinalites ut estain. Ça, c'est la prémisse C, donc il y a des choses possibles qui ne sont pas vraies, ni ne le seront. Alors, j'ai indiqué il y a un instant que Villemin a jugé qu'il était indispensable pour reconstruire complètement l'aporie de Diodore et faire d'elle ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire une véritable aporie, autrement dit, une combinaison de propositions dont on peut déduire une contradiction, c'est-à-dire qui sont telles qu'on doit être prêt à faire le sacrifice qui consiste à abandonner une ou l'autre d'entre elles. Donc il a estimé qu'il était nécessaire d'ajouter aux trois propositions qui sont mentionnées par Épictète un quatrième principe, donc on appelle le principe de nécessité conditionnelle, qu'on trouve formulé par Aristote dans le De Interpretatione, dans le chapitre 10. Alors le principe de nécessité conditionnelle, donc en grec c'est tomen un einai to on otan e, kai tomeon me einai otan me ananke, c'est-à-dire le fait que ce qui est soit quand il est et que ce qui n'est pas ne soit pas quand il n'est pas est nécessaire. C'est ça qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle. Alors il y a, j'ai fait allusion à des problèmes de traduction. Il y a également un problème de traduction dans le si vous regardez la traduction Breyer, hein, qui est celle qui a été reproduite dans le volume de la Pléiade sur les stoïciens, vous voyez que Breyer a une façon de traduire la prémisse C qui n'est pas forcément tout à fait satisfaisante. Il traduit par « est possible ce qui n'est pas actuellement vrai et ne le sera pas ».« Est possible ce qui n'est pas actuellement vrai et ne le sera pas ». Alors, c'est l'occasion de remarquer qu'il y a un problème d'interprétation concernant le esti ou le einai dans la formulation de cette troisième prémisse, parce que dans la traduction qu'adopte Breyer, on est forcément amené à se demander si le « est », la prémisse dit « est possible », ce qui n'est pas actuellement vrai et ne le sera pas, est-ce que le « est » doit être compris de façon définitionnelle ou de façon existentielle, apparemment de façon existentielle, dunaton estin o uk einai, etc., o uk esti, etc. Donc la signification semble être clairement existentielle, et dans ce cas, la traduction doit être « il y a des possibles, il y a du possible » ou « il y a des possibles qui ne sont pas et ne seront pas ». Si vous dites « est possible ce qui n'est pas actuellement vrai et ne le sera pas », on peut être tenté d'interpréter ça de façon définitionnelle, c'est-à-dire comme une définition du possible, c'est-à-dire le possible est ce qui, et ce qui n'est pas actuellement vrai et ne le sera pas, ce qui donne une définition évidemment un petit peu surprenante du possible. Mais ça, c'est simplement pour dire qu'il y a de nombreux problèmes d'interprétation, et même, comme vous pouvez le constater, de traduction qui se pose à propos de cette fameuse aporie de Diodore. Alors, pour tout ça, je vous renvoie, bien entendu, au livre de Villemin, dans lequel vous trouverez des discussions détaillées de tous ces problèmes. Alors, Diodore, lui-même, qui est l'auteur de l'aporie, a fait le choix, comme je l'ai dit, d'abandonner la prémisse C. Et il ne réussit à préserver la contingence qu'en l'identifiant avec l'indétermination du moment auquel se produira l'événement futur. Donc il n'est pas tout à fait exact de... Il ne faut pas s'empresser d'accuser Diodore d'adopter une position nécessitariste. Ce qu'il faut dire, pour être tout à fait exact, est qu'il ne réussit à sauver la contingence qu'en identifiant la contingence avec l'indétermination du moment auquel se produira l'événement futur. C'est-à-dire tous les événements possibles se produiront à un moment ou à un autre. Mais on peut estimer qu'ils peuvent être néanmoins contingents si on est prêt à dire que la contingence réside simplement dans l'indétermination du moment auquel les possibles se réaliseront. Donc, tous les possibles se réaliseront à un moment ou à un autre, mais le moment auquel ils le feront n'est pas déterminé, ce qui veut dire que l'événement est possible signifie à peu près il existe un temps auquel il se réalisera. Alors, plus exactement, il existe un temps auquel il est réalisé. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le présent, ça peut être dans le futur. Donc, Diodore établit une équivalence entre l'événement E est possible et il existe un temps auquel cet événement E est réalisé. Il accepte donc les définitions suivantes pour les concepts modaux. Est impossible ce qui est faux et ne sera jamais vrai. Donc, l'impossible, c'est ce qui est faux et ne sera jamais vrai. Est nécessaire ce dont il est impossible qu'il ne soit pas. Donc, est nécessaire ce qui est vrai et ne sera jamais faux. Enfin, il est possible qu'une chose ne soit pas lorsqu'il n'est pas nécessaire, au sens indiqué, qu'elle soit. Par conséquent, il est possible que non P, si P est faux ou sera faux. C'est ce qui est confirmé ce que dit Boès. Diodore définit le possible comme ce qui ou bien est ou bien sera, l'impossible comme ce qui, étant faux, ne sera pas vrai. Donc, chose qui est faux, ce qui est faux et qui le restera, le nécessaire comme ce qui étant vrai ne sera pas faux, et le non nécessaire comme ce qui ou bien est ou bien sera faux. Donc voilà le genre de définition que Diodore propose. Et il faut souligner dès à présent que bien qu'il ait été soupçonné fréquemment, il l'a été en particulier par Leibniz, de défendre une position qui conduit à peu près inévitablement au nécessitarisme, sa doctrine préserve la possibilité de l'existence de choses qui sont possibles et en même temps non nécessaires. Bien que, encore une fois, en dépit du fait que dans le choix que fait Diodore, tous les possibles se réaliseront à un moment ou à un autre, il est possible, il y a néanmoins des choses qui peuvent exister, des choses qui, tout en étant possibles, qui sont possibles et sont non nécessaires, autrement dit, sont contingentes. Par conséquent, en principe, la position adoptée par Diodore ne provoque aucun effondrement des distinctions modales, bien que ce soit l'impression que l'on peut avoir à première vue. Comme l'écrit sur ce point Villemin, possible et non nécessaires, qui sont des subcontraires, peuvent être vrais en même temps. Donc, vous voyez, il y a des possibles qui sont non nécessaires. Donc, les deux affirmations, qu'une chose est possible et qu'elle est non nécessaire, peuvent être vraies en même temps. Par conséquent, la position défendue par Diodore n'est pas nécessitariste, hein, puisqu'il y a des possibles qui sont non nécessaires. On peut donc introduire formellement dans le système de Diodore le prédicat de contingence. On peut l'introduire formellement, savoir si on peut l'introduire plus que formellement, c'est évident toute la question. Est contingent ce qui est possible et ce qui est non nécessaire. Donc ce qui est possible sans être nécessaire sera dit contingent, c'est-à-dire la conjonction logique de ce qui est ou sera et de ce qui n'est pas ou ne sera pas. Cette définition a pour effet qu'est contingent ce qui n'est pas et sera, ou ce qui est et ne sera pas, ou ce qui sera et ne sera pas. Effectivement, une chose peut, dans l'avenir, être à un moment donné et ne pas être à un autre moment. Donc, j'insiste pas là-dessus, bien que ce soit un petit peu technique. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a toute une discussion à avoir, qui a d'ailleurs eu lieu, sur la question de savoir s'il est possible, si une position comme celle de Diodore entraîne ou non fatalement une position nécessitariste. Alors, en ce qui concerne, ça c'est pour la position de Diodore, en ce qui concerne Chrysippe, alors Chrysippe conteste pour sa part la prémisse B, c'est-à-dire du possible, l'impossible ne suit pas. Il conteste la prémisse B, et la prémisse B est une prémisse qui signifie ceci: pour analyser un possible, il faut étudier les conséquences qui résulteraient de sa réalisation. Quand on veut analyser un possible, c'est évidemment ça qu'il faut faire, examiner les conséquences qui résulteraient de sa réalisation. Soit donc à examiner la possibilité d'une condition que nous allons appeler petit p. Supposons la condition P réalisée et examinons les conséquences qui résulteraient de la réalisation de P. Si P entraîne une conséquence Q qui est contradictoire et donc n'est réalisable dans aucun monde possible, on doit conclure que P est lui aussi impossible. C'est ce que dit la prémisse, B, la deuxième prémisse, qui énonce encore une fois que du possible, l'impossible ne suit pas. C'est-à-dire, si la réalisation d'un possible implique une conséquence, implique comme conséquence la réalisation d'une chose impossible, alors la chose qu'on avait cru initialement possible est en réalité impossible. Alors la prémisse B, donc du possible, l'impossible ne suit pas, est une prémisse qui appartient à la logique modale pure, à la différence, comme on le verra, du principe de nécessité conditionnelle, qui lui n'appartient pas à la logique modale pure. Alors cette prémisse B donc appartient à la logique modale pure et on la trouve dans elle figure dans le décello et dans le dominateur, comme on vient de le voir, sous la forme que vous avez ici, c'est-à-dire nécessairement P implique Q implique il est possible que P implique il est possible que Q, donc conformément au symbolisme utilisé dans la logique modale, donc L de P signifie nécessairement P ou il est nécessaire que P. M de P signifie « il est possible que P » ou « possiblement P » si on consent à s'exprimer de cette façon. Donc il y a un principe qui est un principe qui semble être un principe relevant de la logique modale pure et à ce titre lui aussi extrêmement difficile à remettre en question. C'est le principe qui énonce que de nécessairement P implique Q, hein, s'il est nécessaire que si P alors Q, alors, cela implique que de il est possible que P suit il est possible que Q. Alors, si on remplace M de P implique M de Q par sa contraposée, non M de Q implique non M de P, on obtient le principe suivant. C'est le deuxième que vous avez ici. De nécessairement si P alors Q résulte que s'il n'est pas possible que Q, alors il n'est pas possible que P. C'est-à-dire que l'impossible, non M de Q, ne suit pas du possible M de P, ou encore que si M de Q est faux, autrement dit, si Q n'est pas possible, si Q est une impossibilité, alors M de P doit être également faux, c'est-à-dire P est également une impossibilité. Alors ce principe pourrait encore être appelé le principe de la réalisation possible du possible. Le principe de réalisation possible du possible, qui semble être un principe qui lui aussi va de soi, c'est-à-dire, enfin qui en tout cas donne l'impression d'aller de soi. Et encore une fois, ce qui fait l'intérêt de cette aporie de Diodore, du point de vue philosophique, c'est qu'elle crée une situation qui est véritablement typiquement philosophique, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a une série de principes qui ont l'air tous aussi incontestables, à peu près aussi incontestables l'un que l'autre, et on se rend compte que si tous ces principes sont acceptés simultanément, on peut en déduire une contradiction, ce qui évidemment risque d'obliger à faire un sacrifice extrêmement onéreux, hein, c'est-à-dire sacrifier l'une ou l'autre de ces principes est en tout état de cause extrêmement difficile. Il n'y a pas de solution qui soit absolument évidente, hein, et naturelle à un problème de cette sorte. Donc, ce qu'exprime la prémisse B, du possible, l'impossible ne suit pas, c'est ce que j'ai appelé le principe de la réalisation possible du possible, qui veut dire que tout ce qui est possible doit pouvoir être représenté comme existant. Tout ce qui est possible, tout ce que nous considérons comme possible, nous devons pouvoir nous le représenter comme réalisé, c'est-à-dire nous devons pouvoir nous le représenter comme existant. Et ça semble effectivement constitutif, en quelque sorte, de la notion même de la possibilité. Alors, il y a un exemple typique d'application de ce principe, qui est le raisonnement par lequel on démontre l'incommensurabilité de la diagonale du carré avec son côté. Alors, vous voyez ce passage d'Aristote, tiré des premiers analytiques, dans lequel Aristote dit « Tous ceux qui établissent un argument per impossibile, c'est-à-dire un argument par l'impossible, hein, tous ceux qui établissent un argument per impossibile infèrent syllogistiquement ce qui est faux et prouvent la conclusion hypothétiquement lorsque quelque chose d'impossible résulte de la supposition de son contradictoire. » Par exemple, que la diagonale du carré n'a pas de commune mesure avec le côté. Donc on veut démontrer qu'il n'y a pas de commune mesure entre la diagonale du carré et le côté. On va supposer que cet état de choses est réalisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une commune mesure entre la mesure de la diagonale et celle du côté du carré. Donc on va supposer qu'il y a une commune mesure, et puis on va déduire de ça une impossibilité. Donc, par exemple, on démontre que la diagonale du carré n'a pas de commune mesure avec le côté parce que si l'on suppose qu'elle a une commune mesure, les nombres impairs sont égaux aux nombres impairs, donc on aboutit à une contradiction. On infère syllogistiquement que des nombres impairs égalent des nombres pairs et on prouve hypothétiquement l'incommensurabilité de la diagonale puisqu'une fausseté résulte de sa négation. Donc on déduit une contradiction de sa négation et on en conclut qu'elle est vraie. C'est-à-dire que la diagonale du carré est incommensurable avec le côté. Alors, le principe du raisonnement est tel que vous l'avez sous les yeux, donc, le principe du raisonnement par l'absurde. On suppose qu'il est possible que P, hein, dans le cas envisagé par Aristote, il est possible qu'il y ait une commune mesure entre la diagonale du carré et le côté. Donc, il est possible que P, par hypothèse. On fait ensuite l'hypothèse que P est effectivement réalisé, donc on se considère le possible en question comme réalisé. On observe qu'une certaine conséquence Q résulte logiquement de P, supposée réalisée. On démontre que Q est irréalisable, donc la condition Q ne peut pas être réalisée parce qu'elle est contradictoire, et on conclut de l'impossibilité de Q à l'impossibilité de P. Donc voilà quel est le principe du raisonnement. Alors, selon Villemin, Chrysippe accepte la forme. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais je vais juste vous en dire quelques mots, puis je reviendrai sur cet aspect du problème plus longuement la prochaine fois. Donc, pour terminer, quelques considérations concernant la position de Chrysippe, qui n'est pas, malheureusement pas la plus facile à caractériser. Selon Villemin, Chrysippe accepte la forme positive de la deuxième prémisse, qui demande que le nécessaire suive du nécessaire. C'est-à-dire, L de P implique Q implique L de P implique L de Q, il est nécessaire que P implique Q implique que, il est nécessaire que P implique, il est nécessaire que Q. Ça, c'est aussi un principe qui relève de la logique modale pure et qui semble difficilement pouvoir être contesté. De fait, Chrysippe ne le conteste pas, mais il rejette ce qu'on peut appeler la forme négative qui demande que le possible suive du possible et seulement de lui. C'est bien ce que demande la prémisse B. Du possible ne peut suivre que le possible. Du possible, l'impossible ne peut pas suivre. Alors là, donc, Chrysippe accepte nécessairement si P alors Q implique, si nécessairement P alors nécessairement Q, mais il rejette la forme qui demande que le possible suive du possible et seulement de lui, c'est-à-dire la forme L de P implique Q implique non M de Q implique non M de P, c'est-à-dire il est nécessaire que P implique Q implique il n'est pas possible que Q implique il n'est pas possible que P, donc il rejette cette forme-là qui est équivalente à L de P implique Q, il est nécessaire que si P alors Q implique, s'il est possible que P, alors il est possible que Q. Alors évidemment, ça crée une situation qui est assez problématique, parce que si on accepte la première forme, hein, c'est-à-dire L de P implique Q implique L de P implique L de Q, on devrait, semble-t-il, nécessairement accepter aussi la deuxième. Et la raison pour laquelle Chrysippe peut apparemment se permettre d'accepter la première forme, L de P implique Q implique L de P implique L de Q, tout en rejetant la deuxième, L de P implique Q implique M de P implique M de Q, la raison pour laquelle il peut se permettre ce genre de choses, c'est qu'il rejette ce qu'on appelle la définition croisée des modalités. Alors, pourquoi est-ce que ça crée une situation particulièrement inconfortable ? Eh bien, j'ai indiqué la raison, c'est que L de P implique Q implique L de P implique L de Q, que Chrysippe accepte, on devrait normalement pouvoir déduire, en remplaçant P implique Q par sa contraposée, on devrait pouvoir déduire que L de non Q implique non P implique L de non Q implique L de non P, simplement, si vous voulez, en remplaçant la proposition P implique Q par sa contraposée, non Q implique non P, et en appliquant la formule générale, hein, à partir de la version 1, L de P implique Q implique L de P implique L de Q, on obtient L de non Q implique non P implique L de non Q implique L de non P, et par conséquent, on obtient L de non Q implique non P implique non M de Q, puisque vous pouvez remplacer L de non Q, il est nécessaire que non Q, vous pouvez remplacer par cela par non M de Q, c'est-à-dire il n'est pas possible que Q. Il y a équivalence, au moins dans la logique modale usuelle, équivalence entre L de non Q, il est nécessaire que non Q, et non M de Q, il n'est pas possible que Q. De même, vous pouvez remplacer L de non P par non M de P. L de non P, qui signifie il est nécessaire que non P, peut être remplacé par il n'est pas possible que P, qui est, cette dernière proposition est équivalente à L de P implique Q implique non M de Q implique non M de P. C'est donc comment Chrysippe un peu s'y prend-il pour accepter la première formule que vous avez sous les yeux, L de P implique Q implique L de P implique L de Q, tout en rejetant la deuxième, c'est-à-dire L de P implique Q implique non M de Q implique non M de P, puisque nous venons d'établir que quelqu'un qui accepte la première formule devrait en principe nécessairement accepter la deuxième. Alors, la réponse est simplement que Chrysippe met en question la définition croisée des modalités. Il n'accepte pas ce qu'on appelle la définition croisée des modalités, qui permet de définir le nécessaire et le possible l'un par l'autre. On peut définir le nécessaire en adoptant l'équivalence, la première des équivalences que vous avez sous les yeux. Il est nécessaire que P est équivalent à il n'est pas possible que non P. Et on peut définir le possible par le nécessaire en adoptant l'équivalence il est possible que P équivaut à il n'est pas nécessaire que non P. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que là, ça devient un petit peu acrobatique et un petit peu artificiel, et même un petit peu artificiel. Chrysippe soutient que du fait qu'il n'est pas possible qu'un événement ait lieu, c'est-à-dire non M de P, on ne peut pas conclure à la nécessité de son contraire. C'est cette implication-là qu'il conteste. D'après lui, le fait qu'il ne soit pas possible qu'un événement ait lieu ne permet pas de conclure à la nécessité de son contraire. Autrement dit, on ne peut pas argumenter de non M de P à L de non P, ce qu'on devrait pouvoir faire si on accepte la définition croisée des modalités. Si on accepte la définition croisée des modalités, on doit pouvoir conclure sans difficulté de non M de P, il n'est pas possible que P, à L de non P, c'est-à-dire il est nécessaire que non P. Par exemple, dans la discussion sur le problème de ce qu'on appelle les confatalia, donc les confato, il affirme que la prédiction concernant ce qui arrivera à Édipe, une fois qu'il sera né, ne devrait pas avoir la forme, donc cette prédiction ne devrait pas être formulée sous la forme, il est nécessaire que Laïus ait des rapports avec une femme et procréer, c'est-à-dire la forme L de P implique Q. Je reviendrai la prochaine fois là-dessus, je vous rassure. Je voulais simplement vous donner aujourd'hui une première idée de la façon dont procède Chrysippe. Donc la prédiction concernant ce qui arrivera à Édipe ne devait pas être formulée sous la forme « Il est nécessaire que Laïus ait des rapports avec une femme et procréer », qui est la forme nécessairement P et Q, mais elle devrait être formulée sous la forme suivante, qui ne lui est pas équivalente. Il n'est pas possible qu'il n'arrive pas et que Laïus ait des rapports avec une femme et procréer, qui est de la forme non, M de non, P et Q. Alors, une citation de Cicéron, pour finir, qui évoque ce problème dans le De Fato. Je ne sais plus si j'ai... Oui, voilà, c'est ce passage du De Fato que je voulais vous montrer pour finir. Et d'ailleurs, là, on voit que Cicéron a de grosses difficultés. Il a vraiment le plus grand mal à comprendre exactement, à déterminer exactement le genre de position qui est défendu respectivement par Cléante, par Chrysippe, etc. Et alors, en ce qui concerne Chrysippe, voyez ce qu'il dit. « Il espère que les Chaldéens et les autres devins s'abusent, qu'ils n'emploieront plus pour énoncer leurs principes des formules de ce genre. Si quelqu'un est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer, mais qu'ils diront plutôt « Il n'arrive pas et que quelqu'un soit né au lever de la canicule et qu'ils doivent mourir en mer. » Plaisante hardiesse, pour ne pas tomber dans l'opinion de Diodore, il apprend aux Chaldéens comment il faut formuler leurs principes. Donc, au fond, pour ne pas se trouver contraint d'accepter l'opinion de Diodore, dont vous devez vous rappeler que l'opinion de Diodore consiste précisément à soutenir qu'il y a une certaine façon d'équivalence entre le possible et le réel. Hein, tout ce qui est possible, s'il n'a pas été d'ores et déjà réel ou s'il n'est pas en train de l'être, le deviendra un jour. Donc, pour ne pas accepter cette opinion de Diodore, il apprend aux Chaldéens comment il faut formuler leurs principes. Autrement dit, il propose aux Chaldéens et aux autres devins, comme dit Cicéron, un simple changement de formulation qui consiste à qui repose sur le fait qu'il n'y a pas d'équivalence. On n'est pas obligé d'accepter l'équivalence entre le fait qu'il ne soit pas possible qu'un événement ait lieu, non M de P, donc il n'est pas possible que P. On n'est pas autorisé donc à conclure de l'impossibilité qu'un événement ait lieu à la nécessité que son contraire ait lieu. C'est ce qui apparaît dans ce passage à travers une certaine ironie, comme vous pouvez le constater à la fin. Cicéron ne dissimule pas son scepticisme, un plaisant hardiesse pour ne pas tomber dans l'opinion de Diodore. Il apprend aux Chaldéens comment il leur faut formuler leurs principes. Alors il y a, je reviendrai un peu sur cette question la prochaine fois, mais vous êtes déjà sûrement rendu compte qu'il y a quelque chose d'assez acrobatique et d'assez artificiel dans cette façon d'essayer de se sortir de la porie de Diodore. Chrysippe donne l'impression de penser qu'on pourrait résoudre la difficulté à l'aide d'un simple changement de formulation dans les prédictions concernant les événements futurs contingents. C'est ce qui apparaît dans ce passage où il est question des Chaldéens et des autres devins. Il suffirait qu'ils modifient leur façon de formuler leurs prédictions pour qu'on puisse aboutir à une solution du problème. Alors, en réalité, Chrysippe ne parvient à rendre, d'après ce qu'on sait, ne parvient à rendre acceptable l'idée que la prémisse B du possible, l'impossible ne suit pas. Donc, il ne parvient à rendre acceptable l'idée que cette prémisse B peut comporter des exceptions. Il ne parvient donc à rendre acceptable cette prémisse et à éviter le nécessitarisme qui menace sa conception qu'à l'aide d'arguties logiques concernant le statut particulier des énoncés dont le sujet est un pronom démonstratif. Par exemple, un contre-exemple possible, je croyais que je l'avais reproduit, mais bon, c'est pas grave. Diodore considère Chrysippe considère l'exemple suivant. Il considère la proposition conditionnelle si Dion est mort, celui-ci est mort, qui semble constituer une vérité un peu plus indiscutable, mais même une vérité logique. Donc, si Dion est mort, celui-ci est mort. Et il argumente de la façon suivante, l'antécédent Dion est mort est possible, car il peut se faire que Dion meure, on peut même considérer que le possible en question s'est réalisé. Donc, l'antécédent Dion est mort est possible, puisqu'il est possible que Dion mort, mais le conséquent, celui-ci est mort, est impossible. Est impossible dans la mesure où, après la mort de Dion, la proposition « celui-ci est mort » se détruit puisque l'objet désigné n'existe plus. Par conséquent, c'est le genre de contre-exemple dont vous avez sans doute le sentiment qu'il est un peu controuvé, je suis un peu de votre avis. C'est le genre de contre-exemple auquel songe Chrysippe à propos de cette fameuse prémisse B, hein, qui semble évidemment une prémisse à laquelle il est tout aussi difficile de renoncer qu'à n'importe laquelle des deux autres. Mais encore une fois, c'est... Ces trois prémices de la poésie de Diodore ont en commun le fait d'énoncer des choses qui semblent particulièrement évidentes et difficiles à remettre en question. Mais il y a évidemment un logicien habile, et Chrysippe en était un, incontestablement, peut arriver à trouver tout de même des contre-exemples. Et le genre de contre-exemple auquel il semble avoir pensé ce type de contre-exemple, ainsi Dion est mort, celui-ci est mort. Encore une fois, Dion est mort, donc représente une possibilité, peut même représenter, après la mort de Dion, représentera une réalité, mais celui-ci est mort, ne peut pas représenter une possibilité, puisque dans le raisonnement qu'adopte Chrysippe, donc la proposition, hein, le fait lui-même finalement se détruit, puisque l'objet désigné n'existe plus. Par conséquent, conclut Chrysippe, l'impossible doit pouvoir bel et bien, dans certains cas, suivre logiquement du possible. C'est ce qu'il affirme, qu'il peut y avoir des exceptions à cette fameuse prémisse B, selon laquelle du possible, l'impossible ne suit pas. Alors, je ne vais pas vous parler donc, de la troisième solution, qui est celle de Cléante. Alors, troisième type de solution, qui est la solution adoptée par Cléante. La solution de Cléante consiste à rejeter le principe A, c'est-à-dire le principe de l'irrévocabilité du passé, en s'appuyant sur l'idée du retour éternel. Alors, pour pouvoir soutenir qu'on peut réaliser le possible, non pas seulement dans le présent et le futur, mais également dans le passé, puisque c'est ce que Cléante semble soutenir, pour pouvoir soutenir cela, il faut admettre que les différentes phases de l'univers se reproduisent, non pas seulement spécifiquement, mais numériquement, de sorte qu'il y a une symétrie complète entre le passé et le futur. Le prix à payer pour pouvoir soutenir que l'on peut agir sur le passé est l'indiscernabilité de l'avant et de l'après. Ça, c'est le... Il y a à chaque fois donc, un prix important à payer pour renoncer à l'une ou l'autre, pour consentir à abandonner l'une ou l'autre des prémices. Et dans le cas de la prémisse A, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'irrévocabilité du passé, le prix est évidemment tout aussi grand que dans le cas des autres. Et pour le payer, il faut être prêt à soutenir, donc pour pouvoir affirmer qu'on peut agir sur le passé de la même façon qu'on peut agir sur le futur, il faut être prêt à affirmer l'indiscernabilité de l'avant et de l'après. Alors je vous parlerai donc la prochaine fois de la, de façon un peu plus détaillée, que je n'ai fait aujourd'hui de ces trois types de réponses. Et puis, je commencerai ensuite à examiner de près donc, le type de réponse que Leibniz a adopté lui-même. Vous avez déjà, évidemment, une idée de la façon dont il procède, ou plus exactement de la façon dont il refuse de procéder, puisque pour sa part, il n'accepte de remettre en question aucune des trois prémisses, hein, ni la prémisse A, le passé est irrévocable, ni la prémisse B, du possible, l'impossible ne suit pas, ni la prémisse C, c'est-à-dire surtout pas la prémisse C, une prémisse C à laquelle il tient particulièrement. Il y a des possibles qui ne se réaliseront pas, parce que l'abandonner, c'est vraiment, à ses yeux, c'est vraiment la chute dans le précipice assuré, c'est le précipice du nécessitarisme. Donc il va, Leibniz, à chercher un autre type de solution qui n'est pas facile à imaginer à première vue, puisqu'il n'accepte pas non plus de remettre en question le principe de bivalence, comme le fait Aristote, ou le principe du tiers exclu, comme le fait Épicure. Donc aucune des solutions qui ont été adoptées dans l'Antiquité ne lui semble acceptable. Et disons que, ou plutôt redisons, puisque j'ai déjà donné un certain nombre d'indications sur ce point, sa solution à lui consiste à estimer qu'on devrait pouvoir résoudre le problème essentiellement en distinguant entre différentes espèces de nécessité. En particulier, donc, il n'est pas nécessaire de renoncer à aucun des principes que j'ai mentionnés. Il devrait suffire pour régler le problème de distinguer entre deux espèces de nécessité, en particulier de faire clairement la distinction à laquelle il tient particulièrement entre la nécessité hypothétique et ce qu'il appelle la nécessité absolue, donc à laquelle il donne aussi le nom de nécessité logique, métaphysique. Il dit parle de logique, de nécessité logique, métaphysique, géométrique, et il identifie ce type de nécessité à la nécessité absolue qui doit être soigneusement distinguée de la nécessité hypothétique. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.